Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. L'obligation de porter un masque dans les lieux clos est à l'étude. Le Premier ministre Jean Castex l'a évoqué hier pendant sa visite en Guyane, vous l'entendrez, alors que des scientifiques s'inquiètent d'une possible deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 en France.
Le projet d'accord négocié la semaine dernière avec les syndicats sur la revalorisation des salaires des soignants devrait être signé aujourd'hui à Matignon.
Le poste de Gilles Legendre semble très convoité à la tête du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Il est loin de faire l'unanimité, on vous explique.
Nous serons en direct de Varsovie avec notre envoyé spécial pour évoquer les résultats très serrés du second tour de la présidentielle en Pologne entre le président sortant ultra-conservateur et son rival libéral.
Un demi-échec pour les civils en Syrie. L'aide humanitaire transfrontalière est prolongée d'un an par l'ONU. Mais un point de passage est supprimé, celui qui menait à plus d'un million de Syriens au nord d'Alep.
Les autorités catalanes reconfinent des dizaines de milliers d'habitants dans la région de Lérida pour lutter contre un rebond des cas de Covid-19.
L'écriture inclusive, est-ce un combat politique ? Stéphane Robert y reviendra juste après ce journal dans son billet politique.
Je vous confirme que la question de développer l'usage et le port du masque est bien à l'étude et que, en particulier, cela surtout concernerait prioritairement tous les lieux, quels qu'ils soient, clos, puisque vous savez toutes et tous que le port du masque, ou plus exactement la circulation du virus, se constate d'autant plus que les lieux sont fermés. Je vous rappelle que, d'ores et déjà, dans la réglementation existante, dans un certain nombre de ces lieux fermés, le port du masque est obligatoire.
Jean Castex, lors de sa visite éclair en Guyane hier et après la publication dans le journal Le Parisien d'une tribune de médecins qui demande que le masque soit obligatoire dans les lieux publics fermés pour lutter contre la Covid-19. Rien ne serait pire que de se laisser collectivement aller, a expliqué le Premier ministre. Il assure que la République n'a pas ménagé ses moyens pour la Guyane, territoire toujours placé sous l'état d'urgence sanitaire et où les centres hospitaliers sont en forte tension. Le gouvernement a par ailleurs annoncé le doublement du fonds de solidarité à 3000 euros pour les petites entreprises de Guyane et de Mayotte. Priorité au sauvetage de ces entreprises, a affirmé Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Comment laisser la vie reprendre son cours dans le respect des gestes barrières? Les images d'une foule compacte dansant pendant le concert du DJ The Avener samedi soir à Nice ont fait polémique. 5000 personnes y ont assisté dans une zone qui peut accueillir d'habitude jusqu'à 36 000 spectateurs. Le maire Les Républicains Christian Estrosi imposera désormais le masque pour les grands événements que sa municipalité organise. L'élu accueillera aujourd'hui Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur va notamment se recueillir devant la stèle en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016. Gérald Darmanin qui démissionnera demain de son poste de maire de Tourcoing. Une victoire pour le gouvernement. Jean Castex a annoncé que le projet d'accord trouvé pendant les négociations dites du Ségur de la Santé la semaine dernière serait signé aujourd'hui. Des syndicats de soignants sont attendus à l'hôtel de Matignon. Ils se battent pour une revalorisation de leur salaire pour les carrières médicales et paramédicales. Qu'ont-ils obtenu? Le point avec Guillaume Gaven.
La plus grosse enveloppe, 7,5 milliards d'euros, c'est pour les paramédicaux et les agents techniques et administratifs. L'accord porte sur 20 mesures, dont la plus attendue, une hausse des salaires de 183 euros net par mois, revalorisation en deux temps, 90 euros le 1er septembre, puis 93 euros le 1er mars 2021. L'enveloppe prévoit également de revoir les grilles de salaire pour les infirmiers, aides-soignants, kinés, 35 euros net par mois. Il est aussi question de majorer les heures supplémentaires, le travail de nuit du dimanche et des jours fériés, et enfin de recruter massivement, même si le chiffre de 15 000 créations de postes n'apparaît pas noir sur blanc dans le texte. Côté médecin, l'enveloppe est de 450 millions d'euros pour augmenter la prime versée à ceux qui ne travaillent que pour le public, sans dépassement d'honoraires. Aujourd'hui, ils touchent 490 euros bruts par mois, 700 euros après 15 ans. Cette indemnité va passer à 1010 euros. Enfin, il y aura aussi une révision des grilles de salaire l'an prochain pour mieux valoriser les débuts et les fins de carrière.
La semaine politique s'annonce chargée, à commencer demain par la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron, puis de son Premier ministre mercredi pour sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Ce n'est qu'après, en fin de semaine, qu'on saura qui est nommé secrétaire d'État. Le gouvernement n'est pas entièrement constitué encore, mais une autre question vient parasiter les débats dans la majorité. Gilles Legendre doit-il rester à la tête du groupe La République En Marche à l'Assemblée, Rosalie Lafarge?
Si tant est qu'il l'ait un jour fait, Gilles Legendre est aujourd'hui loin de faire l'unanimité au sein du groupe. Mais le patron des marcheurs à l'Assemblée tient à conserver son poste.
Non seulement je le souhaite, mais c'est le mandat que m'ont confié mes collègues il y a un an. en me réélisant massivement à la tête de ce groupe jusqu'à la fin du quinquennat.
Et c'est vrai, mais depuis, il y a eu quelques épisodes. Des départs en masse du groupe, la perte de la majorité absolue, la révélation dans la presse d'une note de Gilles Legendre à Emmanuel Macron, pas franchement tendre à l'égard des députés marcheurs. C'en est trop pour une partie des élus du Palais Bourbon qui l'ont rebaptisé, pour les moins durs, Gaston, référence à Gaston Lagaffe, pour les moins tendres, l'ectoplasme. On est au bout de l'exercice, il va devoir bouger, prédit un de ses députés. Pas du tout, répond l'intéressé.
Est-ce que j'ai l'air démobilisé de quelque manière que ce soit? Ou triste, ou déprimé, ou si vous me demandez si c'est facile tous les jours, là-dessus, je devrais quand même être assez honnête et dire que ça n'est pas le cas. Mais je pense que je suis utile.
Mais d'autres se verraient bien utiles à sa place. Le nom de Christophe Castaner, débarqué de l'intérieur, circule beaucoup. Envisageable, oui, souhaitable, probablement, résume un historique. Le nom de François de Rugy ressort aussi. Il reçoit tous les parlementaires dans des cafés, leur fait shampoing après shampoing, massage du cuir chevelu, ironise un macroniste. Le fauteuil est convoité par d'autres figures du groupe. Elles attendent tout de même de savoir qui sera nommé secrétaire d'État. Mais une fois le gouvernement complété, ce sera peut-être au groupe de se réorganiser. D'après un député pressenti pour un secrétariat d'État, toutes les pièces de la Macronie ont besoin d'un réameublement.
Emmanuel Macron s'exprimera donc demain, un 14 juillet un peu particulier cette année en raison de la crise sanitaire. Pas de traditionnel défilé des armées à Paris, mais une cérémonie petit format en l'honneur de celles et ceux qui ont lutté contre ce coronavirus. C'est le cas de Marion, convoyeuse de l'air. À 33 ans, elle est infirmière spécialisée en aéronautique. L'adjudant fait partie de l'unique escadrille aérosanitaire des armées, chargée de transporter des blessés et des malades. L'unité est composée de 25 militaires, un maillon essentiel dans les évacuations de patients. Nathalie Hernandez l'a rencontrée.
Marion sera la seule à représenter son unité pour ce 14 juillet. La jeune femme engagée depuis 2008 dans les armées se dit très fière de pouvoir parler de ce métier méconnu de convoyeuse de l'air.
C'est un métier d'infirmier qui a fait une spécialisation pour travailler dans l'aéronautique. On est la personne dans l'avion qui est sensibilisée aux deux facettes. Il y a les variations de pressurisation qui font que d'un point de vue pathologique sur les patients, il peut y avoir des conséquences. Et il est important que le commandant de bord sache ce qui se passe dans son avion à l'arrière, et que nous, on puisse communiquer avec lui pour notamment, assez simplement, les turbulences, par exemple. Et c'est là le cœur du métier de l'infirmier convoyeur de l'armée de l'air.
L'escadrille aérosanitaire a d'habitude pour mission d'évacuer des soldats blessés en opération. Là, comme l'explique Marion, il a fallu s'adapter.
C'est des mesures particulières de respect des gestes barrières, notamment, et de décontamination et de préservation dans les avions. La tenue qui est limitante, on respire moins bien, on a chaud. C'est toute une dynamique qui a été remise en cause et des missions qui nous ont amenés à travailler avec des équipes civiles qui ont été très intéressantes et très enrichissantes.
Aucun membre d'équipage n'a été contaminé et 62 patients souffrant du Covid ont été évacués par l'escadrille pendant la crise.
France Culture 8h08, Margot Delpierre, les premiers résultats du second tour de l'élection présidentielle en Pologne sont très serrés.
Le président conservateur sortant, Andrzej Duda, semble légèrement devancer son adversaire libéral pro-européen, maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, mais tout se joue à quelques dizaines de milliers de voix et les résultats ne sont pas définitifs. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
En direct à Varsovie pour France Culture, où ce matin il règne toujours une grande incertitude.
Oui, et le seul élément dont nous disposons de façon certaine, c'est la participation. Un record comme au premier tour, plus de 67%. Et l'on sait qu'il y a eu un tout petit peu plus de votants dans les villes que dans les campagnes. Premier avantage numérique donc pour le libéral Trzaskowski qui séduit, on le sait, davantage les citadins. Deuxième indicateur, en sa faveur, la mobilisation a été bien plus forte dans 9 provinces de l'Ouest, proche de l'Allemagne, que dans les 7 autres à l'Est, favorables au président sortant Duda. La clé de ce scrutin pourrait venir hors des frontières chez les Polonais de l'étranger. 50% des inscrits ont voté et cela va prendre un peu de temps. Pas de résultat définitif et officiel attendu avant ce soir, voire demain, vient de préciser à l'instant et une nouvelle fois la commission électorale dans une conférence de presse qui n'était pas prévue ce matin. La commission semble donc temporisée, façon d'appeler à la prudence. Le pays pourrait connaître aussi dans les 3 jours, c'est la règle, la possibilité de recours devant la Cour suprême. Le camp de Trzaskowski l'évoquait dès hier soir, recours qui pourrait s'accompagner de manifestations. Cette élection a montré une profonde division de la société polonaise, 2 camps qui se sont neutralisés dans les urnes et aucun n'est vraiment légitime à revendiquer la victoire.
Ludovic Piétenu, envoyé spécial à Varsovie. Les Nations Unies prolongent d'un an l'aide humanitaire transfrontalière en Syrie, mais il y a un mais. Celle-ci est réduite. Un point de passage est supprimé, celui qui mène vers le nord d'Alep, à cause de l'opposition de la Russie face aux Occidentaux. Seul le passage qui dessert la région insurgée d'Idlib est conservé. Cette décision pourrait compliquer davantage la situation des populations civiles dans les zones contrôlées par les rebelles, estime le docteur Raphaël Pitti de l'Union des organisations des secours et soins médicaux.
C'est un total de 4 200 000 personnes qui profitaient de cette aide humanitaire internationale. Donc là, on se retrouve devant une situation où on se rend bien compte que les taux, peu à peu, se resserrent sur ces zones qui sont encore contrôlées par les rebelles, même si les Russes auraient bien voulu certainement fermer les deux postes frontières pour les affamer, comme ils ont toujours fait, que ce soit à Alep, que ce soit à la Ghouta, etc., pour obtenir leur reddition. Enfin, disons qu'il y a quand même un corridor humanitaire qui est ouvert, et ça, c'est mieux que rien du tout. Alors on peut imaginer que l'ONU va essayer de faire passer toute son aide par le poste frontière de Bab el-Hawa et espérer qu'une partie de l'aide qui passait par Bab el-Salamé pourrait passer par Bab el-Hawa et ensuite se diriger vers le nord d'Alep. Malheureusement, ce sont deux groupes rebelles qui contrôlent ces zones qui sont totalement opposées l'une à l'autre. L'armée nationale syrienne, alors que dans ceux qui sont du côté de Idlib, dominés par le groupe Tahrir al-Sham, ex-affiliation à Al-Qaïda. Et si toute l'aide passe par Idlib pour être distribuée dans cette zone du nord d'Alep, eh bien, on va certainement voir que le groupe Tahrir al-Sham va essayer de négocier cette aide, certainement pour essayer de prendre une domination sur le groupe qui se trouve dans cette zone-là. Et il risque d'y avoir à la fois un problème dans la distribution de l'aide humanitaire, et puis on va voir apparaître en même temps une situation politique de contrainte entre les groupes rebelles les uns contre les autres.
Le docteur Raphaël Pitti, propos recueillis par Nabila Hamel. Au moins 11 personnes sont mortes à Bamako depuis vendredi. Le Mali connaît des violences historiques. Les manifestants réclament un changement de pouvoir. L'imam à la tête de la coalition qui veut ce changement appelle au calme. Des centaines de personnes se sont encore rassemblées hier dans la capitale. Des barrages ont été installés sur des axes routiers et un tribunal saccagé. Avec près de 300 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures, le Mexique est désormais le quatrième pays comptant le plus de décès liés à la Covid-19. En tête, les États-Unis avec plus de 135 000 morts, suivis du Brésil et du Royaume-Uni. Les États-Unis, où encore une fois près de 60 000 cas ont été recensés en une journée. Le total est de plus de 3 300 000 depuis le début de l'épidémie. En Espagne, à une centaine de kilomètres des plages très touristiques de la côte catalane, environ 160 000 personnes vont être reconfinées. Retour à la case départ pour la ville de Lérida et ses alentours, la correspondance de Mathieu de Taillac.
Le confinement par périmètre, comme l'appelle le gouvernement régional catalan, n'aura pas suffi. Après 9 jours à ne pas pouvoir sortir du canton, les habitants de Lérida et de 7 communes voisines sont sommés en plus de rester à domicile. Comme toute l'Espagne, entre la mi-mars et la fin juin, depuis hier soir, 160 000 personnes ne peuvent sortir de chez elles que pour aller travailler, effectuer des achats de première nécessité ou se soigner. La décision répond bien sûr à la multiplication des cas de Covid-19 dans ce cluster de Lérida. 190 malades ont été dépistés hier, mais des rebonds se produisent aussi dans d'autres foyers. À l'Hospitalet, par exemple, la deuxième commune la plus peuplée de Catalogne est située dans la banlieue de Barcelone. Au total, la région a enregistré 816 nouveaux cas hier contre 361 samedi. Avec la fin de l'état d'urgence, les régions sont désormais responsables de la gestion de la pandémie. La Catalogne a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics, même dans la rue, quelles que soient les distances entre les personnes.
En Afrique du Sud, un couvre-feu national vient à nouveau d'être imposé à cause de la remontée des cas quotidiens de contamination. En moyenne 12 000 par jour ces dernières semaines. Les visites familiales seront interdites, la vente d'alcool également. La pandémie a contraint plus d'1,5 milliard d'élèves dans le monde à quitter les cours. Près de 10 millions pourraient ne jamais y retourner après le confinement à cause des conséquences économiques. C'est ce qu'affirme l'ONG britannique Save the Children, qui s'inquiète de l'aggravation des inégalités. Dans son rapport publié aujourd'hui, l'organisation estime que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une génération entière d'enfants aura vu son parcours scolaire bouleversé. Le risque est particulièrement fort en Afrique centrale et de l'Ouest, au Yémen et en Afghanistan, notamment pour les filles. En France, le temps de ce lundi, ce sera instable sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse. Plus calme au nord, avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation par le nord-ouest dès ce soir. Au maximum, il devrait faire 20 27 degrés à Paris et Strasbourg, 22 degrés à Brest, 24 à Lille, 29 à Bordeaux, 30 degrés à Lyon et 33 à Béziers, Chloé.
Merci Margot Delpierre.